Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi 8 février. Toujours là en live sur votre quotidienne sportive qu'est Time Sport 20h-21h dans votre radio préférée Beurre FM. Beurrefm.net, c'est le site internet où vous pouvez nous écouter en live à travers le monde mais aussi avec l'application de Beurre FM sur les smartphones et aussi les tablettes. Ce soir, dans cette émission, on va parler de quoi ce mercredi soir ? On va parler bien sûr du sport et aussi de ses réformes sociales à travers le monde du sport. On parlera aussi du grand soir pour l'Olympique de Marseille, voire le Paris Saint-Germain dans son antre qui est l'Orange Vélodrome. Une horaire un peu inhabituelle, 21h10, 8e de finale de Coupe de France. Et bien évidemment, comment oublier LeBron James ? Et oui, le grand LeBron James qui est passé devant tout le monde sur la planète basketball à travers le monde. Flo ou pas, en tout cas, on parlera du joueur des Lakers de Los Angeles, ça c'est promis. Le 01-53-48-3000 pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. On rappelle le débat du jour où on vous donne la parole, on va commencer par ça en plus. Nos réformes politiques peuvent-elles impacter notre sport selon vous ? Voilà, on vous donne la parole, rien de plus simple. Vous composez le numéro du standard, le 01-53-48-3000. On vous fait remporter tout au long de la semaine. Un magnifique ouvrage aux éditions Solar, ça parle de moto, la saga Monray. Voilà, pour les connaisseurs, mais aussi les néophytes, on vous le fait remporter, une réaction, et même une critique, ou même, voilà, une discussion avec toute l'équipe de Time Sport ce soir, sur l'antenne de Beurre FM. Rien de plus simple, vous composez le numéro du standard, le 01-53-48-3000, à la réalisation. Eh bien, Anthony, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM, votre radio préférée. Alors, on va commencer cette émission en présentant ce magnifique plateau.
Time Sport. Time Sport. Il est pour parler.
Allez, pour commencer, le premier sujet, on va aborder le cas avec notre consultante Yasmine. Comment ça va Yasmine ?
Bonsoir Bilal, bonsoir tout le monde. Ça va super bien, ça va être chaud ce soir.
Eh
très
oui.
Très chaud ce soir.
Eh ben justement, avec l'Olympique de Marseille qui rencontrera le Paris Saint-Germain 21h10. On arrive à grands pas dans un peu plus de une heure, ce match qui opposera le classique du football français, et oui, du côté de la Cité Phocéenne au stade Vélodrome. Allez, il est avec nous pour la première fois, c'est Jimmy Dalidou, allez, un consultant des informés avec Adil Farkan qui nous a prêté, on le rappelle, hein, 18h, 19h30, les informés. Eh oui, ah ben oui, c'est ça, on fait un peu des transferts. Jimmy, comment ça va ? C'est un habitué en plus.
Bonsoir à tous.
Tu vas bien, Jimmy ?
Bonsoir à tous.
On va bien débattre, attention, c'est un gros débatteur, Jimmy. Hein. Il est... Arrête, arrête.
Jimmy, on m'a gentiment invité, je dis.
Mais bien sûr, et mais nous aussi.
C'est cool, merci de l'invitation.
Ah non, 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 je crois que c'est toi qui vas le regretter. Tu vas voir, il est juste en face de Vivien. Ça va, Vivien ?
Ça va, bonsoir à tous nos auditeurs.
Ah ben voilà, Vivien, il est avec nous.
C'est une belle soirée de Coupe de France.
Ah ben oui, une belle soirée, beaucoup de monde sur le périphérique parisien, mais aussi à travers la France, sur les autoroutes. Lendemain de grève nationale, justement. On a Samir qui va nous rejoindre. Et aussi, on a notre réalisateur avec nous jusqu'à 23h.
Une menace a été détectée.
Voilà, je ne sais pas d'où elle vient, cette menace. Des Marseillais ou même des Parisiens, ce soir, 21h10. Comment ça va ?
Eh ben écoute, c'est plutôt la menace marseillaise qui sont, je pense, revanchards après leur match perdu, triste match perdu face à l'OGC Nice qui a fait un excellent match.
Ouais.
Et que Tudor regrette encore.
Il en rajoute. Yasmine, peut-être une réaction. Les Marseillais,
non,
pardon,
là,
face à.
Il a su que je venais ce soir, donc il a mis le maillot niçois.
Ouais. Le maillot des Aiglons.
Ouais, bon,
le plus beau maillot de France, quand même.
Ouais.
À 115 euros.
À 115 euros, voilà.
Mieux que la sorcière du maillot Marseille.
Voilà, ça, c'est moi, c'est dit par un certain Jimmy Dalidou. Il est avec nous ce soir, c'est vrai. On va aborder ce cas-là. On a vu pas mal. Je vais pas dire des restrictions, mais c'est vrai qu'on a vu pas mal de réactions de la part des syndicats en France, des travailleurs, des chômeurs, des lycéens, de la jeunesse aussi, de la vieillesse, si je peux me permettre, à travers le pays, hier et pas qu'hier. Ces réformes politiques, elles font peur. Mais aussi, on nous disait quelquefois sur certains des réseaux sociaux que voilà, ça pourrait impacter la planète sport. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quel regard peut-on apporter ? Jimmy, tu es avec nous ce soir. On va donner la parole. Allez, pour justement une première réaction sur l'antenne de Beurre FM.
Oui, alors deux choses. La première, c'est qu'effectivement, il y a des réformes sociales qui sont en cours, des réformes sociales qui sont injustes, injustifiées, qui sont absolument pas normales. Pour la simple bonne raison que la réforme des retraites, par exemple, entre autres, hein, on prend un exemple parmi d'autres, mais ce n'est rien de plus qu'un allongement du temps de travail pour la majorité des Français et du peuple travailleur en France. On leur demande de travailler plus longtemps, alors que déjà à la base ils ont du mal à vivre. Alors vivre devient une lutte. Alors vivre, c'est lutter. Donc on leur dit, lutter un petit peu plus pour contre cette réforme et contre la somme totale des différentes réformes qui vont passer, parce que c'est pas la seule, et qui s'orientent toujours dans le même sens en fait,
ouais.
Vers l'aggravation de l'exploitation de la force de travail de la majorité des Français au détriment qui permet de nourrir une classe sociale dominante et qui s'enrichit toujours plus en exploitant la majorité des Français. Ce qu'on dit c'est que
alors
comment on fait le lien avec le sport?
Bien sûr. Chose.
La première, je crois que paradoxalement, ça peut être très constructif pour le sport à deux niveaux. Alors, première chose, c'est que au niveau financier et social, problème qui se pose, c'est que les réformes sociales, on a prévenu une certaine orientation. Il y a la réforme sociale qui touche au temps de travail, donc la retraite. Il y a une autre réforme qui va toucher, par exemple, je sais pas, indépendamment des formes que ça prend. Mais le problème qui se pose, c'est que l'orientation générale, c'est de réduire les coûts.
Oui.
Concrètement, c'est ça. Ce qu'a besoin de faire le gouvernement, en fait, c'est de réduire les coûts. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est, je rentrerai pas dans les détails, notamment la concentration des capitaux.
Bien sûr, sinon tu vas nous perdre. Hein.
Là, j'aurai pas le temps, mais en fait, ils ont besoin d'augmenter leur taux de profit. Pour augmenter leur taux de profit, ils n'ont pas d'autre choix que de réduire des coûts de production. Et dans cette réduction des coûts de production, à un moment, ils vont gratter à tout et leur atelier. Ils vont ouvrir tous les tiroirs sociaux possibles et pourraient récupérer un max d'argent possible. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est que dans les quartiers populaires, par exemple, et dans les clubs de sport, etc., qui déjà ont du mal à vivre. Ils ont du mal à vivre.
On en revenait avec Esmine, avec Julien sur cela.
J'ai grandi dans la cité 3000 à Stein, à Aulnay-sous-Bois, et dans la cité du Clos Saint-Lazare à Stein.
On les écoute ce soir.
J'avais fait de sport dans un club, je le faisais dans la rue. Parce que mes parents n'avaient pas d'argent pour me payer un club de sport.
Bien sûr.
S'il y avait des aides financières, j'aurais pu faire du sport. Malheureusement, quand on a compris cette orientation générale, cette politique qui est mise en application, ils vont gratter du fric à tous les niveaux. Et malheureusement, ils vont gratter aussi dans les clubs de sport et dans le monde sportif.
Ouais.
Et le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est que...
Avant de faire réagir Yasmine.
Ou alors Yasmine réagit, je réagis.
Yasmine, vas-y, on peut réagir. On a du monde au standard aussi.
Sur la réforme des retraites et l'impact que ça aura sur les sportifs de haut niveau, il faut savoir qu'en France, plus de 7 athlètes sur 10 pratiquant un sport de haut niveau ne sont pas salariés. Et donc, leur carrière, elle se termine souvent aux alentours de 35-40 ans selon les sports. Jusqu'en 1980-81, le Comité international olympique, la valeur principale de l'olympisme à l'époque, c'était que un sportif soit un amateur. Donc c'était au centre de la conception du sport en France.
Ouais.
Donc les médailles, les exploits, etc., c'était bien beau, mais au final, c'était pas considéré comme du travail. Donc à partir des années 80, le professionnalisme, lui, il va commencer à rentrer petit à petit dans l'esprit des Jeux olympiques. Et puis on a en 2012, on a la mise en place par le ministère des Sports d'un dispositif qui est très simple. L'État s'engage à cotiser à la place des sportifs qui remplissent les conditions et qui en font la demande sur une durée de 16 trimestres. Donc 16 trimestres, c'est très peu. Donc ça veut dire qu'en fait, l'État va se substituer aux sportifs pendant 16 trimestres en cotisant pour sa retraite à sa place. Mais il y a un problème à ça. Ce qui va être assez compliqué, c'est ceux qui ne sont pas éligibles finalement à ce dispositif-là. Donc un chiffre très simple, c'est sur les 10 dernières années, l'État a cotisé pour 500 sportifs par an, ce qui est très très peu. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on fait finalement de ceux qui sont laissés, qui sont pas éligibles au dispositif et qui sont finalement laissés sur le bas-côté. Alors il y a ceux qui sont déjà salariés, comme par exemple les footballeurs, les handballeurs, etc. Et il y a ceux également qui remplissent pas ces critères-là. Donc par exemple, il y a certains sportifs qu'on ne peut pas considérer, qui ne sont pas sur la liste officielle des sportifs de haut niveau. Il y a par exemple également d'autres sportifs aussi par exemple, touchent plus de 30 000 euros par an, qui eux aussi ne sont pas éligibles. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Il n'y a pas forcément de reconversion toujours de disponible par rapport à leur sport. Donc ça veut dire que Aujourd'hui, on nous propose encore une nouvelle réforme concernant ce dispositif-là. La seule différence, c'est qu'on propose de justement cotiser un peu plus que 16 trimestres. Le problème, c'est qu'on ne touche pas le vrai fond du problème des retraites concernant les sportifs de haut niveau, c'est-à-dire la reconversion. Qu'est-ce qu'on fait derrière de ces sportifs-là ?
Ouais.
La conséquence principale, ça voudrait dire que derrière, on aura moins de jeunes qui vont pratiquer du sport.
Ouais.
Quand on sait surtout que le sport, c'est un levier d'intégration sociale, donc ça voudrait dire qu'il y aura moins de personnes qui feront du sport. On aura moins de sportifs de haut niveau également, moins de médailles. Et quand on sait qu'un pays aussi rayonne à l'international par son sport et par les Coupes du Monde, les médailles, etc., donc on risque d'avoir aussi moins de sportifs et moins de rayonnement à l'international.
Alors, on poursuit avant la pause.
Ouais, alors, deux choses. Je dirais que la première chose, c'est que le sport, indépendamment du facteur social, c'est que c'est une forme de réalisation de soi. Et le problème qui se pose dans ce pays, c'est que soit on est au niveau du sport, soit on est une élite, soit on n'est rien, en fait. Soit on est porteur de ballon. Alors, soit on est Mbappé, soit on est porteur de ballon.
Et même quand on est une élite, on n'est pas
assez bien. Ouais. Non, mais le problème, c'est que moi, je vois des vies. Pourquoi il n'y arriverait pas ? Et malheureusement, on constate que cette société ne lui permet pas d'y arriver.
90% des athlètes sont dans la précarité, pour compléter.
Ouais, tout à fait. Non, mais le problème qui se pose, c'est que le sport, là où ça devient un booster, c'est que pour moi, le sport, c'est une... Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je mets en application sur moi-même. C'est une force motrice. C'est-à-dire, moi, le sport, quand je cours, je fais du running. Quand je cours mes émotions, je cours mes affects. Pour moi, le sport, c'est d'abord une façon de transformer ses émotions et ses affects. Et en fait, un paradoxalement, ce qui va se passer, ce qui va se produire, c'est que la colère sociale qui monte suite à ces réformes, etc., la colère sociale qui grimpe, ses affects et ses émotions qui vont jaillir, la peur, l'angoisse, la frustration, le mécontentement, tout ça... effectivement, au lieu que ça prenne une orientation sociale destructeur, eh bien moi, par exemple, je canalise ces émotions, je les transforme. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Vous le connaissez bien ce que ça veut dire. Et on les transforme et ça devient une force motrice et ça nous permet de pousser toujours plus nos limites dans le sport. Moi, je vois dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de jeunes, ils sont en colère. La plupart des Français sont en colère.
Ouais.
Et ça rejoint un peu ce que tu dis. Alors, Yasmine, pardon. Alors, soit on est une élite, soit on est dans la précarité. Bah, à un moment, il faut donner aux jeunes la possibilité de vivre de leur passion.
Bien sûr.
Et de transformer ses émotions et ses affects. Et de quelque part, d'une manière générale, de se réaliser en tant qu'homme. Avec un grand H, évidemment.
Jimmy Dalido qui reste avec nous. On va enchaîner rapidement avec notre équipe de Time Sport de suite après la pause. Une courte, justement, on en fait une de pause assez rapide avant de revenir pour parler de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. On a des personnes aussi. On a Jouba, on a Fala du côté du Standard. On va le faire réagir, c'est promis.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h13, en ce mercredi soir, et oui, 8 février, l'Olympique de Marseille qui rencontre à 21h10 le Paris Saint-Germain d'un certain Christophe Galtier. Allez, on parlait des réformes politiques qui peuvent impacter justement le monde du sport. On est au 01 53 48 3000 avec Jouba. Bonsoir Jouba, comment ça va ?
Salut les gars, salut.
Ça va bien Jouba ?
Toute la France évidemment, et toute l'équipe surtout là, j'ai entendu de belles choses, notamment dites par Yasmine et par...
Il y a Jimmy, Vivien et Yasmine, voilà, Vivien, sur le plateau Vivien, avec Samir. Hein.
Entendu, mais je fais complètement confiance
à Yasmine. Écoute que Yasmine,
beaucoup de belles choses, donc il n'y a pas de souci.
Ah, alors, on vous écoute.
Bon, pour revenir sur ce qui se passe actuellement, la conjoncture... sociale, politique, économique en France, c'est clair que le climat délétère ne va pas arranger les choses, même dans les stades. On sait que par exemple,
Jouba, c'est fort intéressant ce que vous êtes en train de nous lancer. Mais on entend trop le chien et le chat. On peut pas laisser.
Pardon, ouais. Pardon, pardon.
Désolé. Pardon. On entend beaucoup trop.
Non, c'est bon.
C'est bon. Voilà, c'est super.
C'est bon.
Oui,
désolé. Il y a des
chiens
à la réunion.
Ah là, c'est le chat là.
Donc là, je m'écarte un peu.
Bon, alors, on vous écoute.
Vous disiez sur cette situation politique, économique qui est délétère, ce qui va. On a une question de liberté, on souviens, avec toute l'instrumentalisation de la politique Covid en France. Donc il y avait eu, vous vous souvenez, lorsque les supporters ont pu revenir dans le stade, des mouvements de foule, des énervements, des envahissements de terrain. Ça, ça aura un impact direct, évidemment, parce que le politique et le foot de toute manière est un instrument politique, c'est un instrument de soft power, comme on le dit, comme le disait, il avait très bien écrit Joseph Schumpeter, voilà, pour les plus connaisseurs de géopolitique, c'est un instrument utilisé par le politique. De toute manière, regardez, avant d'annoncer sa connerie de réforme des retraites, excusez-moi, je mets pas les formes, mais Macron a été voir Mbappé, a instrumentalisé le football pour essayer de se mettre le peuple français dans la poche. Donc voilà ça. Après, directement, moi je pense que il y a eu de belles choses qui ont été dites sur tout le reste. Après, voilà, je pense que les retraites et le foot, bon, c'est des joueurs qui ont des retraites dorées, donc c'est pas des gens à plaindre qui vont bénéficier de ces niches comme celle du président, hein, parce que le président, lui, il va partir avec ses belles niches. Il y a une très belle émission du Média, le Média.
Oui.
Ils font du bon boulot, donc on les cite, qui rappelle un petit peu toutes ces niches qui vont être protégées par la réforme des retraites et qui ne sont pas impactées par cette dérive contre le peuple, clairement, qui n'est pas justifiée. Et puis il y a d'autres éléments, donc concernant le sportif, c'est que on sait qu'il y a des gens qui travaillent autour du foot, qui vivent grâce au football, et notamment le football amateur, et qui peinent, justement, je crois que ça a été dit un peu plus tôt, à finir les fins de mois, et qui peinent à cotiser.
C'est ça, on en parlait avec Yasmine, avec Jimmy.
Il y a énormément de trucs. Ouais. En bas, c'est beaucoup plus dur pour la répartition, et donc c'est des gens qui galéraient déjà à finir les mois, et maintenant on va leur dire de taper 2 ans de plus. Donc la réforme des retraites est une connerie monumentale. Macron le sait très bien, donc je pense que il y a des mesures qui doivent
Jouba, aller dans l'autre sens, pas dans ce sens-là. Vous allez rester avec nous, on va voir un retour avec Jimmy concernant
Jouba, c'est que, sur la récupération politique, effectivement. En fait, on constate que concrètement, ça fait des années, les syndicalistes de lutte des classes ont dit ouais, qu'il faut faire. Non, moi je suis insurrectionnaliste. Donc moi je pense que la masse en mouvement et le peuple en mouvement fait son histoire. Et on n'a pas cessé. En 22 ans de militantisme, j'ai souvent entendu ouais, mais c'est pas possible, tu sais. Ben, attends, pendant une Coupe du Monde, ils étaient tous ils faisaient moins d'eux. Tout le monde était en train de danser dans la rue, presque en caleçon, parce que l'équipe du Maroc avait gagné. Donc la masse était en mouvement. On constate bien que si elle est en mouvement pour un match de foot, c'est qu'elle peut se mettre en mouvement pour défendre des conquêtes sociales. Ouais, oui. Donc là, on voit bien qu'en fait, concrètement parlant, ce qui met la masse en mouvement, c'est l'émotionnel.
Ouais.
Et que là, c'était le foot qui mettait la masse en mouvement. À un moment, il faut canaliser cette émotion et lui donner une orientation sociale. Et la récupération politique, c'est pour ça. Et j'ai un chiffre. Le Falcon de Macron et les allers-retours qu'il a fait, ça a coûté 501 000 euros. C'est 31 ans de SMIC pour un salarié. Donc s'il a fait des allers-retours, c'était politique. Et c'est quoi, quand on dit récupération politique, c'est quoi?
Alors,
c'est que la Coupe du Monde permet une conciliation des classes sociales. C'est une conciliation des classes sociales. C'est pour ça que le président Macron a été voir Mbappé et qu'il a fait des allers-retours à 501 000 euros en Falcon. Parce qu'il avait très bien compris que le sport, malheureusement, et surtout le foot, malheureusement, parce que c'est d'abord un sport à la base, c'est récupéré politiquement parce que ça permet à la classe sociale dominante, aux politiciens, de viser la conciliation des classes sociales. Et ça, c'est salir le sport dans son essence, en fait. Parce que le sport, dans son essence, c'est justement de transformer ses émotions et ses affects.
On va réagir avec Vivien et aussi à Samir. Peut-être tout à fait d'accord. Samir, justement, il était, hein, il était du côté du Qatar pour la fameuse Coupe du Monde. Hein. Ouais, Samir.
En fait, bonsoir à tous. Tout a été dit juste avant. J'ai bien aimé ce qu'ont dit là, Jimmy, Yasmine et Vivien juste avant. On peut même citer un exemple concret. Est-ce que les politiques ont un impact sur ce qui se passe dans le sport? Alors là, je ne vais pas parler de réforme, mais on se rappelle du dramatique épisode de Nice Now. Roselyne Bachelot, à l'époque, avait parlé. On a vu ce que ça a donné, en gros, à l'époque. À partir du moment où il y a une personne qui, dans la politique, est exposée, commence à parler de sport, forcément, médiatiquement, ça va être repris. Donc, ça va avoir un gros impact. Et là où je valide à 200% ce que Jimmy vient de dire, c'est l'aspect émotionnel. Je suis entièrement d'accord, puisque forcément, cet impact émotionnel, on va le ressentir sur le terrain, au sein, en fait, de tous les clubs amateurs, au sein de
de tout, de peu importe le sport, hein, mais tout le monde va commencer à discuter en fait de tout ce qui s'est passé en ce qui concerne les réformes, etc. Et forcément, bah, les gens ils discutent entre eux et ils vont polémiquer sur ce qui a été dit au niveau politique. Donc évidemment que ça a un impact. Et je pense que ceux qui sont malheureusement le plus démunis à ce niveau-là, bah, comme d'habitude, c'est ceux qui sont dans les situations les plus précaires. Je ne vais pas être très long parce que tout a été dit juste avant moi.
Bien sûr, mais viens.
Bah, pour c'est intéressant après, quand même. Maintenant, faudrait
avant de terminer sur le sujet.
Quoi ajouter maintenant avec tout ce qui a été dit juste avant.
Après, il faut dire que chacun, à notre échelle, voilà, c'est ceux qui le sentent, il faut continuer le combat. Mais c'est à chacun, à notre échelle, d'essayer de changer un petit peu les choses, de lutter contre cette précarité. Enfin, je pense notamment, alors, vu qu'on est une émission de sport, il y a beaucoup d'acteurs de sport qui nous écoutent, et même dans l'équipe.
Bien sûr.
C'est à chacun d'essayer de créer
des familles, des jeunes, des moins jeunes.
Dans nos clubs, dans nos associations, dans les entreprises partenaires. C'est comme ça ce que je vois, parce que si on attend, comme on dit, si on attend que tout change d'en haut, bah malheureusement, les élites, elles n'ont pas forcément des bonnes intentions. Donc c'est à chacun de créer le changement qu'on veut voir dans ce monde, je pense.
Pour terminer avec Jimmy Dalidou, justement. Ouais, Jimmy. Ouais, donc, peut-être.
Tout à fait. Il faut vraiment, notamment dans les quartiers populaires et d'une manière générale. Moi, vous savez, le sport, il est lié au concept de l'homme nouveau. Pour moi, il est clairement ça. C'est ce que disait Le Che. Le Che disait que l'homme nouveau, en fait, c'est une émancipation cérébrale. C'est-à-dire développement physique et mental, et qui passe par un développement physique et mental, donc ça passe par le sport aussi. Donc pour moi, c'est lié à l'homme nouveau. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'attendre, effectivement, je suis d'accord, pas besoin d'attendre des directives farfelues des politiciens à deux balles, on sait où ils vont. Mais effectivement, le sport, c'est vital parce que ça permet à l'homme avec un grand H de se réaliser, indépendamment du sport, hein, foot, quel que soit le sport. Moi, par exemple, c'est le running, c'est mon truc. Ça me permet je cours mes émotions. Je cours 6 heures par semaine et quand je suis en colère, comme mon patron il m'a bien cassé les pieds, et je vais courir ma colère et ça va mieux. Donc et c'est vrai que et c'est vrai que sur le plan financier et social, moi j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour les jeunes des quartiers populaires, etc. Parce que moi quand j'étais petit, beaucoup de mes copains et moi.
Ça fait longtemps qu'on attend.
Ça fait beaucoup. Et Jimmy a raison de le dire.
Mais on aurait bien voulu jouer au foot dans un club de foot, tu vois. On n'avait pas assez de fric pour ça.
Ce qui est fatigant, c'est que c'est juste d'acheter un sac de ballon et des plots, comme si ça allait changer la face du monde de faire ça, alors qu'en fait pas. Quelque chose à court terme. Puis la grosse question, c'est les réformes, ça profite à qui, à court, à moyen, à long terme? Qui gagnent dans ces réformes?
Ils ont réduit les subventions territoriales. Donc, par exemple, sur les clubs, ça passe par les subventions territoriales. Donc, si les subventions territoriales ont moins de thunes, ils vont penser d'abord à faire fonctionner leurs trains. Donc, déjà, ils n'ont plus beaucoup de trains, ils n'ont plus beaucoup d'hôpitaux. Alors, malheureusement, de cause à effet, beaucoup d'élus vont raquer, ils vont réduire les coûts sur les clubs de sport, par exemple. Et c'est là qu'on voit où il y a un décalage. Alors, pendant ce temps-là, moi, si les jeunes bourgeois dans le 16e, à mon avis, s'ils veulent faire du sport, ils n'ont pas de problème. Tout est payé. Donc voilà, c'est là où le bas blesse et c'est là où ça ne va pas.
Jimmy Dalidou qui a été avec nous sur l'antenne de Beurre FM, que vous pouvez retrouver chaque soir, en tout cas chaque semaine sur l'antenne de Beurre FM dans l'émission Les Informés avec Adil Farkan, 18h-19h30. Oui, ça le fait sourire, on va voir pourquoi, parce que lui il aime bien se marrer, hein, le niçois là, qui a la réalisation, mais nous on va s'attarder cette fois-ci, Jimmy, on aura le pronostic de Monsieur Dalidou sur l'Olympique de Marseille versus le Paris Saint-Germain.
Time Sport. La parole des sociaux.
Eh oui, Samir, c'est le grand soir peut-être ce soir pour l'une des deux équipes à l'approche la semaine prochaine, jour de Saint-Valentin, d'un PSG Bayern de Munich, 8e de finale aller en Champions League. Mais Marseille aussi aimerait remporter et pourquoi pas conquérir une Coupe de France encore une nouvelle fois. On rappelle que c'est le Paris Saint-Germain qui est détenteur, je crois, du nombre de sacres en Coupe de France. Hein, c'est ça. Derrière, c'est l'Olympique de Marseille avec 10 coupes aussi. Marseille
en
ce
carton.
Soir, ouais, non, des vraies coupes.
Des vraies coupes. Du carton ?
Ouais, des vraies coupes, hein. Des vraies coupes, hein. Tu sais, je crois que c'est Marseille qui a le plus de coupes, hein. À l'échelle déjà européen et aussi,
celles qu'ils ont achetées en 93.
Ah, ben, ça, c'est toi qui le dis. Attention, hein. Attention, c'est toi qui le dis. Tu attaques les Marseillais.
Rigole, oh,
ah, non. Ça, c'est tes propos, hein. Marseille n'a jamais acheté de coupe d'Europe, là, en tout cas.
Ah
oui, ça ne tient qu'à lui. Ça, c'est vrai. En tout cas, ça fait sourire Vivien. L'Olympique de Marseille qui rencontre le Paris Saint-Germain. J'aimerais pas être sur le tracé des Parisiens à l'approche du stade Vélodrome, qui est l'orange du nom précis. Marseille, 21h10, qui rencontrera donc les hommes d'un certain Monsieur Galtier sans Kylian Mbappé. Marseille peut le faire, ou peut-être la vitesse supérieure des Parisiens fera très très mal aux Marseillais. Ouais. Samir.
S'il y a bien un soir où Marseille peut faire quelque chose contre le Paris Saint-Germain, c'est bien ce soir. Depuis le retour de la Coupe du Monde, le Paris Saint-Germain, au niveau du contenu, n'est pas fou. On va essayer de ne pas être dans la langue de bois. Ce que propose le Paris Saint-Germain, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, c'est pas fou. On a l'absence de Kylian Mbappé. On sait que sur des actions individuelles, voilà, il peut à lui seul changer un match, il sera pas là. On sait que Neymar est un petit peu diminué avec son problème de cheville, puis peut-être encore un petit peu de frustration à la sortie de sa Coupe du Monde. Il est titulaire. On sait que Lionel Messi a gagné sa Coupe du Monde. Et puis depuis le début, on va pas se mentir, on va enfin arrêter avec cette langue de bois. Voilà, on n'a pas le Lionel Messi du FC Barcelone. Donc à un moment donné, oui, de temps en temps, on a sur deux, trois actions, un contrôle de balle, un changement de rythme. Oui, on a une belle frappe de balle, ce que vous voulez. Mais on n'a pas un Lionel Messi étincelant sur plus de 90 minutes. Donc s'il y a bien un soir avec le stade Vélodrome, avec l'ambiance, avec la ferveur de la cité phocéenne, où ils peuvent faire quelque chose, c'est bien ce soir. Si ce soir l'Olympique de Marseille ne le fait pas, je me pose la question, quand est-ce qu'ils vont le faire? C'est bien le soir pour prendre le Paris Saint-Germain, parce que je pense que le PSG est diminué physiquement, sportivement, tactiquement, techniquement. Je trouve cette équipe pas ouf, et en plus il y a une échéance importante. Il y a le Bayern Munich à affronter bientôt. Donc
Monaco aussi.
On pense à la Ligue des Champions, on pense à pas se blesser, on pense à gérer ses efforts, on pense à tout plein de choses, alors que Marseille, voilà, n'a pas tous ces soucis là.
Pas faux, Yasmine. Marseille-PSG ce soir.
Grosse ambiance ce soir du côté de l'Orange Vélodrome. Bon, il faut rappeler quand même que Marseille n'a plus gagné la Coupe de France depuis 1989. Donc, à savoir mon âge, hein, 33 ans depuis, 33, 34 ans. C'est le deuxième objectif principal de l'OM cette saison après une qualification en Ligue des Champions.
Ouais.
Donc, autant dire que c'est peut-être le match de la saison pour Marseille, après avoir été éliminé notamment dans la course pour la Ligue des Champions. Pardon. Un effectif marseillais qui est un peu réduit. Il y a l'absence de Balerdi, il me semble de Tavares également.
Balerdi, c'est une bonne chose.
Alors, il était plutôt bon ces derniers matchs quand même.
Ouais.
Balerdi, Tavares.
Sur l'accent de Brahimi,
c'est dur. Je trouve que quand même sportivement, ça fait longtemps que Paris et Marseille n'ont pas été aussi près, je dirais. Même si, bon, après, en nombre de points dans le championnat, je crois que Marseille est à 8 points du PSG. Mais cette fois-ci, Marseille peut regarder droit dans les yeux Paris.
Ouais,
je pense qu'ils peuvent faire vraiment quelque chose.
Bon, ouais,
après, sur l'Orange Vélodrome, 65 000 spectateurs, une ambiance de folie.
Ils vont les accueillir.
Malgré la défaite contre Nice au dernier match, on peut pas tout remettre en question du côté de Marseille. Marseille ne peut pas gagner non plus tous les matchs. Mais là, s'ils peuvent faire quelque chose, c'est ce soir contre Paris. C'est vrai que ça sera pas le même match avec et sans Kylian Mbappé. Là, en l'occurrence, Neymar n'est pas forcément au top. Il a fait 6 bons mois, on va dire, en début d'année. Depuis la Coupe du Monde, il n'est plus trop dedans. Messi, comme l'a dit Samir, c'est pas le Messi du FC Barcelone.
Mais bon, donc, il est là.
Et en même temps, le Paris Saint-Germain est assez diminué, n'est pas forcément en confiance. Paris a quand même pas mal de déchéances à venir, notamment contre le Bayern. Donc, ça va être assez compliqué. Mais je pense réellement que Marseille a sa chance ce soir. Et qu'elle peut faire vraiment
Neymar et Ramos titulaire, faut pas l'oublier. Vivien, avant de donner la parole à Fala au 01 53 48 3000,
c'est une belle affiche, c'est un très beau 8e, parce que c'est vrai que du côté des Olympiens, on attend de voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Alors il me semble que c'est Rongier qui avait annoncé dans la presse qu'ils vont bousculer Paris ces derniers jours, quelque chose comme ça, j'ai un doute. Donc j'attends de voir, enfin, déjà, faire ce genre de déclaration, moi, je trouve toujours que c'est un danger malgré tout. Donc, c'est surtout, quand je vois que là, les compos sont tombés, Neymar est titulaire. Alors, quand je vois le côté, je me dis que si je suis Under ou Mbemba, c'est là où, oui, forcément, j'aurais envie un peu de tester ses chevilles. Donc, c'est là où on verra est-ce que Marseille pourra mettre de l'intensité, mais le problème, c'est que quand tu mets de l'intensité devant, un Léo Messi, il lui suffit d'une action pour qu'il sorte un éclair de génie. Et c'est là où on sait qu'il y aurait une grosse ambiance, mais
ouais.
c'est un match avec un très très gros enjeu, surtout pour les deux coachs, parce que bah, Galtier, c'est sa première saison, même si c'est que la coupe.
Il a veut la coupe, hein. Nasser en parlait en plus. Hein. Il a veut cette Coupe de France.
Moi, je l'ai dit souvent sur cette émission, c'est que le fait qu'il ait perdu l'an dernier en finale, moi, je pense qu'il a vraiment ça à cœur.
Pourquoi pas, pour le Paris Saint-Germain.
Et l'OM, comme a dit Yasmine, ça fait tellement d'années que.
Ouais, 89. On va en revenir avec les auditeurs au 0153483000. Vas-y, réaction avec le réalisateur.
C'est vrai que pour Marseille c'est un match assez physique parce qu'ils ont quand même beaucoup couru contre Nice en Ligue 1 dimanche dernier. Donc je pense que Tudor a fait tourner un peu l'effectif qui est avec Paul Lopez dans les cages, Kolasinac. On a aussi Under Sanchez en pointe. Donc je pense que ça peut faire mal au PSG. On connaît la frappe de Sanchez et de Under qui peuvent faire très mal. Mais je pense que voilà. Le milieu de terrain va avoir quand même beaucoup de boulot avec Klose et Guendouzi qui vont essayer de bloquer les certains joueurs du PSG. Après, je pense que, comme je l'ai dit, c'est un match ultra physique et il ne faut pas que Paris pense que c'est un match de promenade de santé et que tout va bien. Je pense que c'est là où Paris peut se faire peur et comme tout le monde a dit et Nasser encore hier, Galtier veut se venger et remporter la Coupe de France qu'il a perdue l'année dernière.
Allez, Fala au 0153483000. Bonsoir, Fala.
Bonsoir, comment vous allez?
Ça va très très bien, Fala. Comment ça va? OM-PSG ce soir, 21h10 au stade Vélodrome, Fala.
Ouais, déjà, magnifique plateau. Samir, comment tu vas?
Ça va,
Fala. Yasmine, ça fait longtemps.
Fala, il appelle pour faire des dédicaces. Voilà, c'est ça. Mais non, il a raison, bien sûr. Fala, vas-y. Mais bien sûr, toujours, Fala.
Non, on va revenir un peu vite fait là, en 2-4-6, sur ce fameux classico. Alors, j'ai entendu les critiques de part et d'autre. Donc, il y a du pour et il y a du contre. Je vais commencer par le contre. Alors, le contre, pour moi, c'est que c'est vrai, le Paris Saint-Germain aujourd'hui, il n'affiche pas une forme rayonnante et on pourrait croire qu'ils sont prenables. Mais il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain, il est le meilleur quand il est dos au mur. C'est-à-dire que sur un match, quand ils doivent répondre au rendez-vous, le Paris Saint-Germain, vous le savez, je n'ai pas besoin de vous expliquer le nombre de matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, ils ont réussi à retourner la vapeur. Notamment contre le Bayern de Munich, ils l'ont déjà fait. On les a annoncés déjà perdants. Aujourd'hui, on voit bien dans les 5 championnats européens, Arsenal, il a perdu. Le Bayern, Dortmund, il revient à 1.2. En Espagne, on voit bien que le Real, c'est pas trop ça. Et le Barça, il est en train d'écraser cette Liga. Donc, non, moi, pour moi, le Paris Saint-Germain va répondre présent, mais dans la dureté. Parce que Marseille, en ce moment, est dans une belle forme. Et je le souligne assez souvent que Marseille.
C'est vrai, sur l'antenne, c'est vrai.
Pour le dire, Marseille, ils font peur, c'est que on les sent dans une très bonne forme.
Oui.
Mais le problème, c'est que, pour moi, c'est que, comme je vous le dis, sur un match, le Paris Saint-Germain, ils savent très bien. Alors, pour moi, Marseille, c'est pas le match de l'année. Hein.
Bien sûr.
Pour moi, c'est pas le match de l'année.
Ouais.
Ça, parce que c'est le classico. C'est le vrai match de l'année, déjà, il sera contre Paris en championnat.
Bien sûr. À la fin du mois, c'est ça. C'est vrai.
Oui, ça aura une importance.
C'est vrai, c'est vrai.
Marseille, là, ils sont revenus.
Ouais.
Donc, en vrai, la Coupe d'Europe, si tant mieux, ils peuvent aller au bout et ils peuvent
s'en sortir. Ce qu'on va voir.
Pour le moral, c'est bien.
Ouais.
Mais derrière.
Bon, on va revenir pour ça. Fala, il reste avec nous. Fala, au 0153483000. On va le garder pour revenir sur OM-PSG. Un petit pronostic avant de le laisser filer, Dimi Dalidou. OM-PSG.
Je suis parisien dans l'âme. Je suis un ancien Titi parisien. Je suis toujours Titi parisien dans l'âme. Donc, j'espère que Paris va gagner.
Et quand même, tout à l'heure, il m'a dit qu'il était vraiment fan de Marseille, hein, hors antenne.
Mais je suis parisien dans là, mais j'espère que Paris va gagner. Et je pense qu'il faudrait peut-être baisser le salaire des joueurs et qu'on récupère.
Un grand merci à Dimi, voilà. Un grand merci aussi à Adil de nous avoir prêté Dimi Dalidou sur cette émission qui est Amsport, 20h-21h, une courte pause la dernière. Et on revient avec Vivien, Yasmine, c'est promis, et Samir. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h-21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM, ce mercredi 8 février, 20h36, toujours là avec vous jusqu'à 21h avant d'accueillir Vanessa, 21h, 23h, à la réalisation c'est Anthony, le numéro du standard le 01 53 48 3000, avec notre consultante Yasmine et les deux autres consultants Samir et Vivien. On était sur le cas du Paris Saint-Germain qui a rejoint la cité phocéenne pour rencontrer les Marseillais, 8e de finale de Coupe de France.
Time Sport. La parole des sociaux.
Avec toi, Vivien, justement, parce qu'on terminera avec toi aussi et les parquets nord-américains, hein, on rappelle, hein, et le fameux record d'un certain LeBron James aux Lakers. Marseille pourra le faire, mais c'est vrai, la vitesse supérieure des Parisiens pourra faire très très mal à la cité phocéenne et à ses supporters.
Oui, clairement. Et puis là, bizarrement, j'étais pas d'accord avec Samir, c'est qu'il
d'accord avec Fala, alors.
Que Léo Messi, c'est plus le Messi du Barça, mais Messi, ça reste quand même un champion. Et alors, même si c'est quelqu'un qui peut marcher 70 minutes, Messi, c'est quelqu'un qui peut-être se dit qu'il n'a jamais fait de grands classico depuis qu'il est au PSG. Il a jamais réussi un classico, donc je serais pas surpris que ce Messi ce soir nous sorte un ce qu'il sait faire, c'est-à-dire peut-être une passe, une action de génie qui va te débloquer le match. Et moi, si je suis Marseille, je ferais très attention à Léo Messi ce soir.
Léo Messi, Samir, on va avoir aussi le ressenti de Fala concernant Léo Messi.
Vivien est contre moi, mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire.
Là. Ah ben voilà.
Je pense exactement la même chose, en fait. C'est ce que je dis. Je dis juste qu'en gros, ces actions-là que tu dis, en fait, sur une action individuelle de Lionel Messi, maintenant, aujourd'hui, il va le faire peut-être 2, 3, 4 fois dans le match, ce qu'il faisait régulièrement sur toutes les actions offensives
au FC Barcelone. Oui, c'est sûr que là, j'y
mais
passe
je suis d'accord
aussi.
Avec toi. Bien sûr que sur une action individuelle, il peut changer le match à lui tout seul. Sauf qu'il va le faire 3 ou 4 fois quand c'était une régularité offensivement au FC Barcelone.
Oui.
Je suis d'accord avec toi, Vivien.
Voilà. Il est
alors
avec nous,
moi,
voilà.
Ouais. Venir, parce que là, c'est sur Messi.
Ouais.
Non, sur Messi, il faut pas le sous-estimer. C'est quelqu'un qui connaît les grands rendez-vous, qui a participé à des rencontres où il est rentré dans des stades où c'était électrique. Il a été le meilleur face à justement des publics où c'était chaud. Là, ça va être pour lui. Il peut, comme il a dit Vivien, il peut marcher pendant 70 minutes, mais ce mec-là, eh ben, un ballon, une touche de balle, un contrôle, et puis ça peut l'emmener dans la Ligue 1, et on n'en parle plus, ça y est, c'est terminé. C'est tout. Maintenant,
Marseille. Ça va se passer, les gars. J'espère.
On espère, ouais. Nous, en tant que Parisiens. Après, il ne faut pas aussi sous-estimer l'Olympique de Marseille. Parce que leur force aujourd'hui, pour moi, je l'ai dit, c'est le coach.
Oui.
C'est le coach, la force de l'équipe cette année. Voilà. C'est tout, ça ne va pas plus loin.
Ouais,
maintenant,
dors,
pour finir, après, je raccroche et tout. Je vous
bien
laisse.
Sûr.
Pour Vivien. Vivien, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer sur la planète NBA, là. Le sport US, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Il y a les Eagles qui sont en finale. On va avoir un match entre les deux frères. C'est incroyable. Et là, on a LeBron James qui vient de sortir une légende. Non, je crois qu'on n'a pas encore conscience. Mais là, c'est un séisme. C'est un séisme qui vient de se passer dans la planète NBA.
On va en reparler,
quand
justement.
Quand j'ai vu ça, je pense à Vivien. J'ai dit, mais lui, il est en train de tout arracher de 18e. C'est pas possible. Le 18e, il est en train de raisonner.
Exactement.
Là, c'est pas là, justement, hein, qui a volé la chronique à Vivien. Ça sera la dernière partie. Voilà,
non,
mais
j'ai rien
bien.
Volé. Arrête de pas passer pour un voleur. Non, moi, je suis pas un voleur. Non. Enfin... Hey, en tout cas, Samir.
Oui.
Dis parce que j'ai Samir entre les mains.
Alors
Samir, tu m'as fait plaisir pendant 31 jours, tu m'as fait plaisir.
Voilà.
Merci, Fala.
Samir, il était du côté du Qatar.
Il y a Yasmine sur le côté. Yasmine.
Alors
Yasmine, ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas vu. Je te fais des gros bisous.
Merci, Fala.
Tu me régales quand je te vois sur les réseaux, tout s'attaque. Et j'espère qu'on sera en émission bientôt parce que franchement, tu es.
Ça serait mortel. Cool. Merci
beaucoup. Fala. Merci. Beaucoup.
Un grand merci à Fala. Fala, le pronostic pour ce soir. OM-PSG.
Ça va être compliqué cette histoire.
Oula, pas dur.
Merci Fala.
Je vois une grosse bataille, mais bon, allez, un petit 2-1 pour l'Olympique de Marseille, mais pour Paris, pardon.
Ouais.
Excusez-moi. Un lapsus.
Ouais, voilà.
J'espère que ce ne sera pas révélateur. Mais non, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, mais un match très très dur et très très chaud.
Eh ben, on verra ça. Fala, un grand merci pour cet appel et aussi toutes ces belles réactions sur l'antenne de Beurre FM. On va retrouver, cette fois-ci, on va retrouver Jouba, justement, au 01 53 48 3000. Jouba, on revient sur le cas OM Paris Saint-Germain avant de donner la parole à toutes les personnes qui m'accompagnent sur le plateau.
toujours là. Évidemment, tu l'as dit, Bilou, juste avant, y a quand même un gros enjeu, ne serait-ce qu'en termes de dynamique, parce que on le sait, Marseille, sa dernière, tu l'as dit, on se l'est dit un peu en off, sa dernière Coupe de France, c'est 1989. C'était le jeune Papin, c'était une autre époque. Donc c'est aussi quelque chose qui doit être regagné par l'Olympique de Marseille. Au contraire, le Paris Saint-Germain, eux, souffrent du début de l'année là, très compliqué, de défaite, Rennes-Lens. Donc c'est très compliqué. Et puis là, l'OM doit montrer l'écrou. Après, le PSG doit s'inscrire aussi dans cette dynamique pour cette Ligue des Champions, comme ce qui a été dit. Après, bon, s'il devait donner un pronostic, le PSG devrait être au-dessus, et notamment pour cette dynamique. Après, moi, je n'ai pas kiffé, je ne vais pas vous mentir, vous avez fait un petit focus sur Messi. Le FC Messi, ce n'est pas fini cette histoire-là, les gars. C'est pas fini, le FC Messi. Enfin, je veux dire, c'est pas, alors, le PSG n'est pas Messi, et Messi n'est pas le PSG, c'est fini, c'est pas le Barça. Enfin, Messi maintenant est un élément, il a fait une bonne saison. Enfin, c'est le minimum syndical, on lui demande de faire au moins ça en Ligue 1, quoi. Faut pas s'extaser parce que Messi fait des bons matchs contre Lens, ou non, même pas, il pas
Toulouse, Toulouse. Match
contre Lens, pardon. Ouais. Ou non, mais enfin, Messi, c'est un élément du puzzle. Le vrai leader de cette équipe,
alors,
c'est Mbappé.
Kylian Mbappé, il est blessé, mais il est blessé, il sera pas à Marseille ce soir.
Oui, il sera pas là ce soir, évidemment. Ouais. Tu l'as dit, on a eu les nouvelles la semaine dernière, c'est préoccupant. Bien même sûr. Pour le Bayern, hein, ça va être compliqué
aussi,
pour
Monaco.
Mais je veux juste, les gars, si on peut, s'il vous plaît, arrêter de faire des focus sur Messi. Enfin, certes, il a gagné, il est champion du monde, mais c'est pas le FC Messi, c'est le PSG, les gars.
Non, ouais. Alors Vivien.
En fait, moi, je suis pas en désaccord avec toi. Je dis juste que forcément, si on parle des éléments qui peuvent faire changer le match ce soir, ben on attend de ce joueur-là, et pourtant, dans tout ce que tu as dit, moi, je suis pas en désaccord. C'est justement, c'est une manière de dire, ben, c'est Léo Messi, et là, par exemple, Neymar est titulaire. Donc, si Paris doit ouvrir le score ce soir, ben, on attend que soit Messi, soit Neymar, soit à l'avant-dernière passe, soit à la conclusion. C'est pas manquer de respect aux autres ou oublier le reste. Après, Marquinhos peut très bien marquer de la tête, par exemple, ou Sergio Ramos, mais c'est pas se focaliser sur Messi que de dire que on attend qu'un joueur comme ça fasse la différence ce soir. Et regarde, Jouba, j'ai même dit que justement, il n'a pas encore fait un grand classico. Depuis qu'il est en France.
Oui, c'est vrai, t'as totalement raison. Après, est-ce qu'il se soucie vraiment de la France, tu penses, Messi, toi? Est-ce que tu penses que les classicos, le classique, parce que le classico...
Le classique, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison.
Est-ce que tu penses qu'il en a quelque chose à faire, même du public français, Messi? Je
te pose la question. Ce soir, il va voir celui de Marseille.
Déjà, il salue les supporters parisiens. Donc,
ouais. Peut-être il saluera les supporters marseillais, à savoir. Ouais. Alors, Jouba, avec Samir.
Oui,
et Yasmine, alors. Alors,
salut Jouba.
Ouais,
salut
Jouba, tu m'entends? Messi,
alors Jouba, on va laisser Samir enchaîner là. Hein, Jouba.
Pardon.
Alors,
salut Jouba.
Salut Samir.
Bien sûr que c'est le PSG avant tout, c'est un collectif avant tout. Si on additionne en fait en termes de statistiques, combien de buts ont mis au Paris Saint-Germain Vitinha, Verratti, Danilo et Fabian Ruiz au PSG? Donc c'est normal que tout le monde attende après Messi et Neymar ce soir.
Oui, mais vous avez fait un focus sur Messi, pas sur Neymar, c'est ça mon souci.
Les deux, en fait Neymar, là il y a deux joueurs ce soir qui peuvent faire la différence au Paris Saint-Germain, c'est Neymar et Messi. Objectivement, on est passionné du Paris Saint-Germain, on les suit depuis le début de la saison, le PSG c'est un club phare de la Ligue 1 et même un club phare européen. Forcément on connaît les caractéristiques de chacun des joueurs, on sait à quel point Verratti ne tire jamais, Vitinha ne marque pas, Danilo par miracle sur corner de la tête. Et Fabien Ruiz, par miracle dans la surface. Donc, il n'y a que les offensifs qui marquent.
Justement,
donc,
il a
évidemment qu'on va parler que des joueurs offensifs.
Il a le 3 de devant, c'est Vitinha, Neymar et Messi.
Pour moi, quoi qu'il en soit, de toute manière, ce soir, on est dans un classico. On est au Vélodrome. C'est à l'Olympique de Marseille d'enflammer le match, d'étouffer cette équipe parisienne, de mettre de l'engagement, surtout de ne pas reculer. J'entendais Galtier qui disait souvent à ses joueurs que ça va être un 11 contre 11. Quand on est dans un classico, c'est pas un 11 contre 11. Non, on a tout le public marseillais qui sera présent.
Oui.
Moi, j'ai déjà eu cette chance de pouvoir assister à un classico au Vélodrome, et je peux vous dire que c'est très, 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 très
chance.
Alors non, Marseille avait fait match nul à ce moment-là.
Alors.
Il avait fait un très, très bon match. Donc, ça sera pas forcément facile pour le PSG. Et puis on a quand même devant du côté de Marseille de la qualité avec Malinovski, avec Sanchez. Donc totalement possible pour les Marseillais ce soir. Et encore une fois, ça sera pas un 11 contre 11 ce soir pour ce classico.
Oui. Alors, Jouba, pour terminer, avant de partir sur le continent nord-américain.
C'est vrai que l'OM et son public, on sait que le public marseillais joue le rôle du 12e homme, comme on le dit assez souvent dans le foot. Mais enfin, l'OM a été quand même abandonné des années en arrière par son public lorsque l'OM connaissait des passes très difficiles. Aujourd'hui, l'OM, notamment l'année dernière avec Sampaoli, a regagné des couleurs, etc. Donc le public est encore un peu plus présent. Mais est-ce que vraiment le 12e homme fera la différence? Surtout que ça fait, il l'a dit un peu, Vivien ou Samir, je ne sais plus.
Les supporters marseillais, les bons résultats de l'OM au Vélodrome, n'ont jamais lâché l'Olympique de Marseille. Ça. Tu ne peux pas dire ça.
Ah, mais moi, je te le dis, moi, j'ai soutenu l'Olympique de Marseille. Ça, je soutiens l'Olympique de Marseille. Comment?
Tu ne peux pas dire ça. C'est les supporters marseillais n'ont jamais lâché. Quand t'es supporter, tu peux pas lâcher ton équipe. Donc ils n'ont jamais lâché.
Ah ben moi, j'ai des souvenirs où ils les avaient lâchés.
Ouais, Jouba, il s'en souvient quoi. Ouais.
Des souvenirs où le public marseillais arborait des banderoles hostiles à son équipe. Où
les graves.
Tu les as en tête.
Il y avait des graves aussi.
Oui, tu un Jouba de Marseille qui a fait grève dans Ligue des Champions à domicile au Vélodrome.
Exactement.
Ouais. Marseille l'emportera peut-être ce soir contre le Paris Saint-Germain. Alors Jouba.
Mais j'ai dit ça va être très compliqué.
Mais le pronostic Jouba. Avant de vous laisser.
Après moi le pronostic, je pense que je dirais 3-1 pour le PSG.
3-1 pour le Paris Saint-Germain. Ça c'est Jouba qui le dit au 01 53 48 3000. Allez, ça fait peut-être on va dire sur le binet Samir, notre consultant. Samir.
Moi, je vois pas. Je vois vraiment Paris galérer ce soir à Marseille. Vraiment. Je vois pas du tout un match où il y aura un score de 2 buts. Après, évidemment, je sais pas la science infuse et que je peux me tromper. Moi, je vois un match serré. Et je vois un match nul et je vois même une séance de tirs au but. Voilà. Après, les tirs au but.
C'est la loterie, quoi.
Je vois moi les tirs au but, je vois un match serré, je vois un match nul, 1-1, 2-2, voilà ce que je vois.
La pression peut-être sur les épaules de Galtier, Samir, tu en penses quoi?
Il a fait une petite sortie médiatique en disant que justement il a un petit peu éteint son téléphone, en disant qu'il répondait pas aux amis, à la famille, puisque voilà, on sait qu'il est marseillais, qu'il connaît bien la ville et le stade. Après, moi je pense vraiment que c'est justement un professionnel avant tout, et que en tant que Marseillais justement il a intérêt à bien faire le travail, puisque si jamais ça se passerait mal pour Galtier, justement tout le monde va lui tomber dessus à Paris. Donc pour mettre tout le monde d'accord à Paris, il a intérêt à faire le taf ce soir au Vélodrome. Donc je pense que Galtier jouera le coup à fond ce soir.
Alors justement, Neymar, cheville encore fragile, titulaire contre l'Olympique de Marseille, et un gros risque pris par Galtier ce soir. On rappelle, Vivien, Yasmine et Samir, prochain programme du Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, Monaco, Bayern de Munich la semaine prochaine, Lille, on revient à Marseille et on repart du côté de Munich. Quand même, c'est chez équipe qui nous le rappelle et il faut s'en méfier, c'est pas faux.
C'est un grand club, au bout d'un moment, si tu veux gagner
rêvons des titres, plus grand, c'est vrai.
Oui, si tu veux gagner des titres, au moment, il faut arrêter d'avoir peur du calendrier, il faut être prêt à jouer. C'est normalement, au début de saison, tu construis un effectif pour. Après, c'est pas de chance. Au Compo, ça dit que le mercato était raté. Donc, mais pour moi, voilà, c'est peut-être là, il faudra peut-être lancer un Zaïre Emery en cours de match. Il faut tenter. Et je pense même qu'à Monaco, il faudra faire tourner pour moi. Surtout à Monaco, si on se projette, c'est là, il faudra même titulariser des jeunes pour moi. Parce que t'as un matelas de 8 points. Mais en tout cas, ce soir, c'est un bon test, parce que là où ce serait catastrophique, c'est que si Paris perd, ça ferait Paris qui aurait perdu contre Lens, contre Paris qui aurait perdu beaucoup de matchs, de gros matchs. Donc pour moi, pour Galtier, ce serait une catastrophe ce soir de perdre.
Ouais, Yasmine, pour terminer, concernant cet OM PSG.
Ce soir, moi je dirais, je rejoins un petit peu Samir, mais je terminerai peut-être par une victoire de l'Olympique de Marseille 1-0 ce soir.
Ouais, un but à zéro pour Yasmine. Allez, la dernière rubrique de cette émission, c'est parti.
Time Sport, le mode pressing.
Allez, là, on va voir justement ce qu'on passe sur Yasmine, les auditeurs, mais aussi Samir. On va écouter Vivien, et c'est vrai que c'est LeBron James, meilleur marqueur donc de l'histoire, comme l'ont rappelé chez nos confrères d'Eurosport. Que change ce record dans le débat du GOAT entre LeBron et aussi Michael Jordan, peut-être, parce que c'est vrai, là, depuis ce record, on fait que d'en parler.
Bah, déjà, c'est un joueur qui a fait une carrière de 20 ans d'excellence et qui continue de marquer l'histoire. Enfin, c'est assez incroyable que, à 38 ans, c'est plus que le record. Ce qui est incroyable, c'est qu'on se dit, mais limite, comment est-ce qu'il arrive à enchaîner autant de minutes? C'est mettre encore 38 points, 7 rebonds, c'est assez phénoménal. Et c'est par exemple, c'est pour comparer nos auditeurs qui connaissent peut-être moins le basket, physiquement, je le compare vraiment à Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire avec des gens comme ça qui sont tout le temps à la poursuite de records. Ça me rappelle quand Cristiano était devenu meilleur buteur, je crois, en sélection. Ben là, c'est un peu ça. C'est passé Karim Abdul-Jabbar. C'était un record qui datait de 1984. C'est phénoménal. Donc, c'est, pour moi, il est, je trouve que, alors, des fois, on aime bien avoir, chercher une personne dans le sport. Moi, j'aime plutôt la table où t'as une roi avec plusieurs personnes. C'est comme si t'avais une table de roi du basket où t'aurais Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron ouais. James, peut-être même Kobe Bryant et Magic Johnson, voire même le grand Bill Russell. Et c'est un petit peu ça, c'est à chaque fois, LeBron James, il essaye de repousser les limites et de relancer le débat. Et maintenant, il a dit quelque chose de très important, LeBron, c'est que malgré tout, il est aussi obsédé par le fait de gagner. Et là, malheureusement, ce qui doit un peu le chagriner, ouais. C'est que les Lakers, ils sont 13e. Et pour expliquer
ouais, à nos auditeurs,
les Lakers, c'est l'une des deux plus grandes franchises de l'histoire de ce sport. C'est comme si tu avais le Real Madrid qui était 15e de Liga.
Ouais, qui joue en ce moment.
C'est une catastrophe
industrielle. Je crois, Vivien, ils ont autant de victoires que de défaites, les Lakers, il me semble, cette saison en conférence Ouest.
Même moi, avec ouais. la défaite d'hier soir, ils tombent en négatif. C'est vraiment une catastrophe d'être 13e. Mais pour le joueur, non, c'est une icône sur le terrain et c'est une icône hors du terrain parce que un exemple de réussite venant des quartiers,
ouais.
Faisant énormément de choses pour sa communauté,
sa fondation,
dans l'Ohio,
ouais.
à Akron, et c'est vraiment un exemple à suivre.
Alors justement, on va en discuter et terminer avec toi, Samir. LeBron James, c'est vrai. Bah. C'est ouais.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est vrai que moi, je suis de la génération 86, donc depuis que je suis petit, forcément, on a parlé que de Michael Jordan, on a parlé que de ça.
C'est vrai, et là, c'est présent.
C'était un truc de fou. Et là, on est en train de m'annoncer, en fait, que quelqu'un a dépassé, en fait, Michael Jordan. Je trouve ça complètement fou. Et c'est comme si, dans quelques années, on va m'annoncer maintenant que quelqu'un va dépasser LeBron James. Maintenant, moi, ta question, elle est bonne, Bilal, puisque quand tu parlais de quelle est la différence, en fait, est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui entre ces deux joueurs-là? Bah, je me dis, peut-être la différence, ça se fait au niveau de l'influence, tu vois. Aujourd'hui, t'as encore, je vais faire un parallèle avec le foot, parce qu'on ouais. fait tout le temps, t'as des gens aujourd'hui qui comparent beaucoup Maradona et Messi.
C'est vrai.
T'en as qui vont te dire, non, Messi est plus fort que Maradona. Ouais, mais on va pas se mentir, Maradona aujourd'hui a laissé une empreinte incroyable encore aujourd'hui sur le monde du football actuel.
Ouais, du
et
sport
je me
aussi.
Dis peut-être, est-ce que Michael Jordan n'a pas encore laissé une très grosse empreinte, même sur le basket aujourd'hui,
c'est
que
pas
peut-être LeBron James n'a pas encore ouais. eu, ou on verra dans les années à venir.
Les fils de LeBron portent.
Rapidement, Yasmine.
Non, moi, ce que je trouve magnifique, c'est que justement, la différence, c'est qu'on vit ce moment. C'est qu'on a la chance de pouvoir le voir, de le vivre et de voir ce record battu. Et je trouve que quand même, de porter le maillot des Lakers, c'est plus bankable quand même que celui de Cleveland, Vivien, en même temps. Mais c'est surtout, en fait, par rapport au sport américain, c'est le fait qu'ils ont cette culture des stats, de mettre en valeur toujours un sportif par rapport à ses statistiques. Aujourd'hui, on a eu Cristiano Ronaldo qui a battu des records en sélection en nombre de buts. On n'a pas eu la même influence, la même couverture, on va dire, médiatique que pour le basket et pour LeBron James. C'est ça que je trouve dommage.
Ouais, des réactions avec justement Stéphane et sans oublier Anna. Michael Jordan reste inclassable. Il appartient à une autre planète et une autre génération. Allez, vous restez à l'écoute de Beurre FM, le 01 53 48 3000. Voilà, pour réagir avec Vanessa, 21h, 23h. Et nous, on se retrouve dès demain. Le match qui opposera Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille en 8e de finale de la Coupe de France. Et bon, on le débriefera demain sur l'antenne de Beurre FM. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.